Venons-en à la prédication de ce matin. Vous savez que j'aime vous parler de Jésus. Ouais. J'aime vous parler de Jésus. Et donc, on va lire un texte que vous connaissez tous, où on voit Jésus en action d'une manière très particulière, enfin, inhabituelle dans les autres textes. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 7, et les versets 36 à 50. Donc Luc 7, 36 à 50. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à sa table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qu'il touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Un denier, c'est l'équivalent d'une journée de travail. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, le créancier leur fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, c'est qui celui-là qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Tout le monde connaît ce texte. Ce qui m'a frappé, c'est que ce texte nous raconte une double rencontre qui se vit en parallèle. En parallèle, car si Jésus est en relation avec le pharisien d'une part et avec la femme d'autre part, simultanément, il n'y a aucune communication entre la femme et le pharisien. Vous avez remarqué ça. Les parallèles ne sont pas faits pour se rejoindre et entre la femme et le pharisien, c'est mal parti. Alors, prenons le texte au début. Jésus a accepté l'invitation à manger du pharisien. Il est assis à sa table. D'autres personnes sont présentes, comme le soulignera le verset 49. Jésus est certainement assis à la place d'honneur, tout près de son hôte. Un lien se crée, suffisamment fort pour que Jésus puisse appeler Simon par son prénom. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. Pharisiens et ses amis sont des gens bien élevés, polis, propres. On est en plus autour d'une bonne table. Ça gâte rien, n'est-ce pas Christian? Bref, tout va bien. Chouette ambiance, belle perspective. Et puis d'un coup, tout bascule. Quelqu'un qui n'était pas du tout invité fait irruption. Sans doute très discrètement, sans un mot, sans bruit. Elle avait appris que Jésus était chez le pharisien et elle veut absolument le rencontrer. Et au mépris des règles de l'époque, elle entre dans la maison du pharisien sans être invitée. Elle transgresse au moins deux règles, sans doute encore plus, au moins deux. Elle, la pécheresse, et le pharisien vivent dans des mondes différents et même étanches l'un à l'autre. Le pharisien évite soigneusement tout contact avec les gens comme elle, il change de trottoir pour ne pas la croiser. Et inversement, cette femme ne va pas se rapprocher d'un pharisien pour se faire agresser, juger, condamner. Deuxième règle, il est probable qu'à ce repas, il n'y ait que les hommes. Couchés pour manger, les femmes sont là pour service. Excusez-moi, mais comme ça à l'époque. Et donc, on peut imaginer l'ambiance. Il y a dû y avoir un froid grandissant. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on se dit les uns aux autres, t'as vu qu'est-ce qui se passe. Les convives prennent conscience progressivement de cette présence inattendue. La femme ne se laisse pas impressionner. Elle ne peut pas vraiment prendre la parole, parce que c'est pas exagéré quand même. Alors elle va agir et communiquer autrement que par la parole, d'une façon parfaitement préméditée, puisqu'elle a apporté un flacon de parfum. Elle est chargée intérieurement et en même temps, elle a vu la lumière, elle a perçu de la lumière et elle sait que Jésus est une solution à son, est la solution à son problème. Elle est en chemin, un chemin de repentance, un chemin de recherche du pardon. Et elle pleure. Elle pleure probablement parce qu'elle est chargée, et elle pleure aussi probablement parce qu'elle sait que Jésus accueille des gens comme elle. Elle pleure suffisamment pour mouiller les pieds de Jésus, qu'elle va essuyer avec ses cheveux. Son attitude communique à Jésus deux choses. Qu'elle est en chemin par rapport au péché de sa vie, qu'elle n'est pas bien, mais qu'elle est convaincue que Jésus est celui qui accueille les pécheurs comme elle. Et son attitude exprime déjà une forme de reconnaissance. Elle a suffisamment confiance en Jésus pour ne pas craindre d'être rejetée. C'est pas évident, hein, dans ce contexte-là. Elle a confiance. Elle ne dit rien. Jésus ne dit rien. Mais la communication passe quand même. Jésus va comprendre qu'elle exprime une repentance profonde et un attachement à sa personne. Un début d'attachement au moins à sa personne. Et il va accueillir son message. Et il va lui donner ce qu'elle attend. Une parole de pardon, à laquelle il va ajouter deux choses, une affirmation du salut, basée sur la foi de la personne, et aussi le don de la paix, vain paix, ce qui est particulièrement utile dans un moment quand même assez stressant pour elle aussi. On lit un peu vite, vain paix, mais dans ce contexte-là, franchement, c'est pas juste une formule de politesse pour faire bien et pour se dire au revoir. Mais avant de répondre au message non verbal de la femme, et tout en laissant cette femme lui laver les pieds par ses larmes, Jésus, j'aimerais que vous repériez ça, Jésus, dans sa bienveillance, va prendre soin de son hôte. En effet, Simon, le pharisien, ne comprend pas que Jésus se laisse faire par cette femme. Déjà, c'est un truc qu'on fait dans l'intimité, pas devant tout le monde, de laver les pieds. Une femme lave les pieds d'un homme, quand c'est un esclave, ça va bien. Mais quand c'est une femme, c'est plus compliqué. Et Simon ne comprend pas, et ça le fait remettre en question la bonne image qu'il avait de Jésus. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel genre de fille c'est. voyez ? En effet, pour Simon, cette femme est perdue. Il faut l'éviter. Et si Jésus était vraiment un prophète, comme ses miracles et sa prédication lui donnent à penser, il l'aurait rejeté et il aurait demandé à Simon que ses serviteurs la jettent dehors. Ça, ça aurait été la bonne manière de faire, d'après Simon. C'est sa façon de raisonner, son univers mental, sa vision de Dieu et de la foi. En fait, pour Simon, la situation fait que Jésus est en train de passer un test de bon croyant et qu'il est en train de le rater. Oui ? Vous notez ça ? Jésus sait tout ça. Jésus sait cela simplement parce qu'il sait comment les pharisiens raisonnent. Il n'a pas besoin d'avoir une inspiration divine là-dessus, il sait comment ça marche dans ce milieu. Il aurait pu être, et peut-être que nous aurions été, très mal à l'aise dans cette situation. C'est quand même pas très cool, hein ? Quand même pas très cool. Il aurait pu se sentir coincé entre cette femme et Simon le pharisien. Coincé entre cette femme qu'il essaye d'accueillir le mieux possible, et coincé entre Simon, dont l'opinion sur Jésus est en train de plonger à toute vitesse. Et ça, personne n'aime. Hein. Dans une situation où on est en train de passer pour un type complètement nul, c'est que personne n'aime ça. Quoi. Jésus aussi aurait pu s'irriter contre Simon, contre son esprit de jugement. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus reste très calme, en tout cas suffisamment calme, pour, tout en accueillant cette femme, pouvoir parler avec Simon. Le tout ensemble, hein, en même temps. C'est ça qui est compliqué. L'un après l'autre, à quelques heures de distance, ça va, mais tout ensemble, là. Ça vous est déjà arrivé d'avoir à votre table des personnes dont vous savez qu'elles ne s'aiment pas du tout, entre elles. Vous êtes l'ami de chacun, mais en fait, ça ne va pas du tout. Puis vous êtes là, c'est pas toujours très cool, quoi. Vous voyez ? C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Jésus ne partage pas... Ah, quelque chose s'est arrêté, là ?
Non, mais je pense qu'elle était déchirée.
Jésus ne partage pas l'attitude jugeante, excluante de Simon, et il va lui dire. Mais il va lui dire tout en douceur. D'une manière très pédagogique et très créative, et il va sortir une parabole. Ou une comparaison. Et à partir de cette parabole, où Simon est obligé de dire que celui à qui on pardonne plus, ou à qui on remet une dette plus grande, est forcément plus heureux que celui à qui on remet une petite dette, Jésus va mettre, à partir de là, Jésus va mettre en parallèle l'attitude de Simon et celle de la femme. T'as pas fait ça, elle a fait ça, vous voyez ? Et, c'est assez génial, il va profiter de cette mise en parallèle pour mettre en valeur l'attitude de la femme. La comparaison joue en défaveur de Simon. Mais c'est dit d'une manière qui fait qu'on ne peut pas se fâcher. Vous voyez ? Où il n'y a pas d'agressivité. Il y a juste une approche pédagogique, raisonnable, si je puis dire. Jésus fait souvent ça, en fait. Il fait souvent ça. Au lieu de se battre frontalement contre ceux qui essayent de le piéger ou qui sont contre lui, il trouve une manière à la fois évidente et inhabituelle de faire. Quand il dit « Il y a quoi sur cette pièce ?» et qu'on lui dit « Il y a la tête de César », il dit « On rendait à César ce qui est à César. » Il fallait le faire, plutôt que de se disputer pour savoir si on peut donner, si on peut payer l'impôt à tous ces affreux envahisseurs que sont les Romains. Ou quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, c'est juste génial. C'est en même temps, personne ne peut se battre avec ça. C'est une phrase de bon sens, c'est une phrase qui ne provoque pas de tension, qui ne provoque pas d'agressivité, et qui le dit de manière paisible, sinon c'est raté, et qui oblige les autres à penser autrement et à agir autrement. Ici, Jésus donc sort cette parabole, et à partir de la réponse de Simon, il va faire cette comparaison qui met en valeur la femme au détriment de Simon. Et Simon ne peut pas dire non, puisque c'est ce qui s'est passé, c'est tout récent, il est un des acteurs de cette mise en parallèle. Et donc Jésus conclut, verset 47, de façon très nette. C'est pourquoi, conclusion, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Jésus élève cette femme aux yeux de Simon et l'oblige d'une certaine manière à changer son regard méprisant et jugeant, en douceur. Et avant même de dire à la femme elle-même qu'elle est pardonnée, il le dit d'abord à Simon. C'est quand même fort. Parce qu'il dit à Simon, ses péchés sont pardonnés, et ensuite il va dire à la femme, ses péchés sont pardonnés. Ce qui est assez génial quand même. Deux remarques pour compléter ce qui vient d'être dit. Premièrement, en aucun cas, Jésus ne minimise le péché de la femme. C'est lui qui utilise l'expression « ses nombreux péchés ». C'est pas Simon. Donc on ne triche pas là-dessus. Et on ne cherche pas d'excuses. On ne cherche pas d'excuses sur son enfance, sur ses parents, sur son mari qui l'a quitté, enfin, que sais-je, moi, enfin, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui pour minimiser le fait qu'on fait des choses qu'il ne faudrait pas faire. Et deuxièmement, en mettant en valeur l'attitude de la femme, Jésus ouvre des pistes de réflexion à Simon. Et notamment en soulignant ce qui représente pour lui, Jésus, l'enjeu fondamental. Et c'est quoi l'enjeu fondamental? C'est l'amour. Ça ne nous frappe pas au premier regard. Mais Jésus dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et donc tout est une question d'amour à partir d'un certain moment. Jésus ne dit pas qu'il y a des gens qui ont moins besoin de pardon que d'autres. Il dit plutôt que si notre foi est enfermée dans une morale où on distribue des bons et des mauvais points, où on se compare les uns aux autres comme le pharisien par rapport au péager, et probablement comme ce pharisien par rapport à cette femme, alors on ne comprend pas la profondeur du péché en nous, et en même temps on ne comprend pas l'étendue de la grâce de Dieu, exprimée, vécue, enseignée par Jésus pour nous aussi. Le drame du fait qu'on ne perçoit pas le péché en nous, c'est qu'on perçoit d'autant moins la grâce. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème de Simon. Il est tellement bien, c'est un tellement bon pharisien, même s'il ne va jamais dire qu'il est parfait, s'il le sait, mais n'empêche qu'il ne perçoit pas la grâce de la même manière que cette femme. Jésus invite le pharisien, d'une manière encore une fois assez paisible, à réfléchir à sa vie spirituelle, à sa foi en Dieu, et il essaye de le sortir du carcan du moralisme qui fait de lui le juge des autres. Ce moralisme qui peut très, très bien nous atteindre nous aussi, quand on se fait juge les uns des autres. Faire juge les uns des autres, ça a plusieurs avantages. Comme dit Jésus, si tu regardes dans l'œil du prochain, tu ne peux pas regarder dans ton œil à toi. C'est quand même génial, quoi. Vous voyez ? Tout le temps que je passe à regarder l'œil des autres, j'ai pas besoin de regarder. Je ne peux pas regarder mon propre œil à moi, quoi. Donc c'est vraiment très cool. Et puis, dans les comparaisons, on trouve toujours quelqu'un de plus nul que soi pour éviter de regarder dans la profondeur de nos propres problèmes. Vous voyez ? Il y a toute une série de... On pourra continuer autour de ça, mais il y a toute une série de phénomènes psychologiques et spirituels qui nous permettent de nous cacher quand nous nous comparons les uns aux autres. Et aussi, dans cette spiritualité où on se juge, on se compare, en fait, on est centré sur qui ? Sur soi. Et pas sur Dieu. C'est clair ? Hein, quand on se compare ou qu'on juge, on se compare. On est centré sur soi. Je voudrais poursuivre par des considérations plus générales. Si cette femme est venue auprès de Jésus, c'est parce qu'elle avait compris que Jésus était venu sur terre pour des gens comme elle. Jésus était connu comme celui qui mange et donc qui se met en communion avec les gens de mauvaise vie. D'ailleurs, les pharisiens lui reprochaient pas mal ce truc, hein. J'étais connu pour ça. Alors les pharisiens râlent, ça on sait bien, mais ce qu'on oublie parfois, c'est que tous ces gens-là se sont dit, waouh, Jésus, lui, je peux aller lui parler de mes problèmes, de mes soucis. Alors je ne peux pas parler avec les autres, sinon ils vont me jeter des pierres, quoi. Cette perception de Jésus, comme quelqu'un qui est accueillant et non jugeant, elle s'est développée à partir de sa pratique sociale, parce que les gens savaient, ça se disait qu'il est allé manger avec cette racaille de péager, qui était les copains de Matthieu, enfin vous voyez ce genre de truc, quoi. Ça se sait, ça se raconte. Ça dit, et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement percutant dans le ministère de Jésus. Parce qu'il a incarné lui-même son message sur l'amour de Dieu et sur la grâce, il l'a d'abord vécu. Et donc, en plus Jésus l'a théorisé quelque part, dans un texte comme Matthieu 11, 28, 30, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. » Les pécheurs qui étaient en souffrance de leur péché pouvaient entendre ça pour eux, et c'était pour eux aussi. « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Venez et changez de chemin. » C'est ça en fait l'invitation de Jésus. Et donc, on ne s'étonne pas que des gens comme Zachée ont voulu voir qui était Jésus. On ne s'étonne pas. Et encore, Jésus est allé beaucoup plus loin que ce que Zachée s'attendait, puisqu'il s'est carrément invité chez lui. Je vous rappelle que c'est le seul texte des évangiles où Jésus s'invite de lui-même chez quelqu'un d'autre. Hein. Comme diraient mes enfants, il a tapé l'incruste chez Zachée. Mais ça on sait en général, mais ce qu'on ne dit pas assez, ce n'est pas parce que Jésus est ouvert aux pauvres, aux exclus, aux marginaux, aux pécheurs de tout poil, qu'il rejette les autres. Il va aussi vers les pharisiens, il accepte leur invitation, il refuse de les juger, et leur témoigne de l'évangile avec beaucoup de douceur et de pédagogie. Il refuse de les juger et de les condamner, et, une expression que j'aime bien, il ne se fait pas le pharisien des pharisiens. Ce que moi j'ai fait à une époque, ce qu'on peut faire facilement, on critique les autres. Eh bien, je ne fais pas ça. Il refuse les préjugés, les séparations construites sur le mépris des autres, sur les jugements. Et il est à l'aise avec tout le monde. Ça, je trouve ça incroyable, quoi. Il est à l'aise avec tout le monde. Ce qui suppose une impressionnante maîtrise de soi. Par rapport au stress, par rapport à la peur, que va-t-on dire de moi si je baisse cette fille, me laver les pieds avec ses larmes, voyez le genre, quoi. Que vont penser les gens? En Alsacien, il y a une phrase qui revient souvent, ma mère me le disait tout le temps. Was kann ich denken? Que vont penser les gens? Quand je lui ai dit que je voulais avoir les cheveux plus longs à 11 ans, elle m'a dit, mais que vont penser les gens? C'était une pression sociale incroyable. J'imagine qu'ici c'est pareil. Et donc, quand on voit Jésus, ça nous pose à nous la question, jusqu'où sommes-nous ouverts? On pourrait faire la liste des gens qu'on n'aime pas beaucoup, pour mille et une raisons. Et si on la compare avec celle de Jésus, on est très embêté parce que dans celle de Jésus, il n'y a pas grand-chose. Et que si on veut être ses disciples, c'est aussi par là que ça passe. C'est aussi par là que ça passe. Et c'est important de le dire aujourd'hui parce que nous sommes dans une société extrêmement jugeante. Internet, avec ses likes et unlikes, nous a pourri la vie et les relations sociales. Parce qu'on est tout le temps en train de donner des bons points et des mauvais points. Vous avez remarqué ça ou pas? Et on est dans une période où les désaccords se vivent sur le mode de la virulence, par toutes sortes de manières. Et donc, on a beaucoup reculé socialement, me semble-t-il. Parce qu'en plus, Internet, ça nous libère puisqu'on n'a pas les personnes en face. Comment est-ce que nous affrontons cela? Comment est-ce que nous pouvons progresser vers plus d'ouverture aux autres? Comment gérons-nous les peurs nombreuses qui peuvent être les nôtres face à certaines catégories de personnes? C'est quand même, il y a beaucoup de peurs qui jouent là-dedans. Le pharisien, il avait peur de choper une impureté s'il approchait de trop près les pécheurs. Parce que le péché est une impureté et c'est contagieux. C'est une espèce de lèpre sociale, si vous voulez. Quelles sont nos peurs? Quels sont nos blocages? Moi, je pense qu'on a peur à la base, et la question, c'est est-ce qu'on doit les affronter, les peurs? La peur, c'est la normalité de notre état de pécheur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? À partir de l'exemple de Jésus et de ses commandements dans l'Évangile. Jésus était ouvert aux personnes, il était à l'aise, mais il était aussi ouvert, ça c'est un autre chapitre, il était ouvert à l'imprévu. À l'imprévu. Comme quand cette femme est entrée dans la maison de Simon, sa venue était totalement inattendue, avec quelque chose de profondément choquant, socialement, et il était à l'aise, alors ça l'a pris par surprise. Comment nous gérons ce genre de choses? Est-ce que quand nous sommes pris par surprise, nous perdons nos moyens? Nous sommes envahis par la crainte, par toutes sortes de sentiments négatifs. Et derrière ces attitudes de maîtrise par rapport aux différentes catégories de personnes qu'on peut rencontrer, de maîtrise de soi, de maîtrise par rapport aux peurs, de maîtrise par rapport à l'imprévu qui peut nous attraper, derrière toute cette question-là se cache la plus importante, c'est quel amour avons-nous pour ceux qui nous entourent. Parce que s'il n'y a pas d'amour, on ne va pas faire d'efforts pour avoir plus de maîtrise et plus de liberté dans nos relations. Ça, c'est sûr. Seul l'amour est une force qui va nous pousser dans cette bonne direction. Sans amour, nous ne serons pas disponibles pour rencontrer les personnes sans jugement, mais avec bienveillance. Sans amour, nous ne serons pas porteurs de grâce, de la grâce qui vient de Dieu. Et une grâce que nous sommes appelés à transmettre par notre attitude. Je vous propose un exercice tout simple. Quand nous retrouvons à plusieurs dans la vie sociale, assez facilement on va critiquer d'autres personnes qui ne sont pas là. Peut-être pas dans les Vosges, mais ailleurs, oui. L'exercice que je vous propose, c'est dans cette situation-là, essayez de trouver quelque chose de positif à dire sur ceux qu'on critique. Ouais, ça vous dit? Essayez. C'est intéressant. Il faut le dire paisiblement, hein. Pas la peine de dire aux autres vous êtes nuls, moi je pense ça. Non, il faut le dire très paisiblement. De dire votre différence en essayant de trouver du bon et du positif. Du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide pour reprendre la présidence du début. Ça c'est intéressant, c'est tout bête, c'est tout simple. Hein. Mais en fait, la vie humaine, elle est faite encore une fois de mille et une choses toutes simples. Nous avons besoin de poser devant Jésus toutes les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Nous avons besoin de lui confesser notre étroitesse, notre manque de bienveillance, nos craintes multiples et diverses, et de lui demander que par son esprit, il nous fortifie, nous dirige, nous nettoie. Nous sommes invités à avoir une vie centrée sur la volonté de Dieu, à vivre aussi dans un état de prière qui nous connecte à Dieu d'une façon permanente, on va dire, et qui nous ouvre au prochain, quelles que soient les circonstances. Cette prière permanente nous aide à rester dans la paix intérieurement. Et à grandir dans la maîtrise de soi. On ne peut pas brûler les étapes sur ce chemin, on peut avancer qu'à un certain rythme. Mais ce rythme sera un peu plus rapide si on s'entraide les uns les autres. D'abord, si on ne triche pas sur la réalité de nos problèmes, mais si on peut s'entraider les uns les autres dans l'Église. Et donc, je termine avec cette question. Avancer sur ce chemin nous intéresse-t-il? Amen.